À titre d'information, il y a différentes traductions de ce mot douceur. Selon les versions, en Matthieu chapitre 5, verset 5, on va voir heureux les doux, on va voir traduit heureux les démonaires ou heureux les humbles. Pourquoi? Parce que les mots hébreux et les mots grecs qui expriment cela n'ont pas d'équivalent en français. Et c'est pour ça qu'on a un ensemble de définitions qui conviennent. C'est pour cela qu'on n'a pas toujours exactement le même mot qui est utilisé. En même temps, pour comprendre le sens biblique de ce qui, en définitive, est une disposition interne créée par la grâce de Dieu, la douceur, c'est ce que Dieu crée en nous, il faut dépasser ce qu'on appelle la confusion des siècles antérieurs. Pourquoi? Parce que dans la culture grecque, par exemple, la douceur était quelque chose qui était absolument banni. Quelqu'un de doux, c'est quelqu'un qui était inintéressant, inexistant, et c'était une vertu qu'on ne recherchait absolument pas. L'homme primitif, comme on pourrait dire, comme il y a très très longtemps derrière, voyait dans la douceur un signe méprisable de la faiblesse. Et il faut bien se rendre compte que le message que nous connaissons, le message de l'Évangile, et quand le Seigneur parle de douceur, c'était quelque chose qui irritait les gens de l'époque, et qu'il n'arrivait pas à saisir. Aristote, philosophe grec, l'a défini comme le point d'équilibre entre deux extrêmes, la colère chronique, donc quelqu'un qui se met en colère, et puis le caractère mou et incapable d'indignation. Alors il dit, la douceur, ça va se trouver quelque part entre les deux, parce que c'est pas possible d'être en permanence mou et de jamais être indigné de rien. Et c'est impossible d'être, c'est insupportable, d'être en permanence en colère de manière chronique. Donc, il a situé ça à peu près là. Et puis, pour un autre philosophe que vous connaissez, Platon, il a dit « La douceur est une disposition naturelle régissant les relations entre hommes et c'est le contraire de la férocité ou de la cruauté. » Mais les Saintes Écritures, elles, vont nous donner une autre définition. L'Ancien Testament chante la bonté de Dieu, une bonté qui est immense, donc sans limite et clémence, ainsi que la douceur de sa parole et de sa sagesse. Par exemple, dans le psaume 119, au verset 3, il est dit, donc c'est l'expression poétique d'une hébraïque hein, pour signifier une vérité profonde, une vérité fondamentale, mais évidemment, les Hébreux avait ce sens de la poésie. Alors il dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, David, le psaume 119, verset 103, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Je ne sais pas si vous aimez le miel, Oui, ok. Alors, vous savez combien c'est doux. Hein. Et alors voilà que le psalmiste dit, mais parler, prononcer des paroles, c'est quelque chose qui est doux comme le miel. Pourquoi? Parce qu'il y a une plénitude agréable. Quand l'intelligence saisit le sens des paroles de Dieu, alors c'est comme le miel dans la bouche de quelqu'un qui en consomme. Le psaume 19, verset 8 à 11, dit la chose suivante. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à tout jour. Et regardez ce qu'il dit concernant les jugements de l'Éternel. Il dit, les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or. Que beaucoup d'enfants, ils sont plus doux que le miel. Voilà que toute une expression gustative, il est en train, l'auteur du psaume est en train d'exprimer une vérité profonde sur la douceur, la vérité du jugement de Dieu. Quand on pénètre dans la pensée divine et qu'on réfléchit à tout ce que Dieu fait et la manière dont il expose sa volonté dans la pour qui les observe, la récompense est grande. Et puis, vous connaissez ce passage quand Dieu s'adresse à son prophète Ézéchiel et qu'il lui demande de manger un livre du volant d'un livre. Dans Ézéchiel chapitre 3, verset 3, le prophète s'exprime ainsi, il, c'est-à-dire Dieu, il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Donc, toutes ces vérités expriment la nature même de Dieu. Douceur, sainteté, justice, éternité, pureté absolue, extraordinaire. Et notre Dieu, créateur de tous les affaires, est doux. Donc si Dieu est doux, c'est qu'il n'y a pas de faiblesse dans la douceur. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, versets 13 et 14, qui concerne la sagesse de la parole de Dieu, il dit, mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Donc là, il fait référence à l'Esprit de Saint, à la parole de Dieu. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ce qui est intéressant, c'est que la qualité spirituelle de soumission humble, de douceur et patiente est associée à la pauvreté et à l'affliction dans les saints. Il est intéressant de noter que ce n'est pas lorsque tout va bien que l'on exerce ses humilités. J'ai connu des personnes qui pensaient avoir réussi dans le domaine de la douceur et tout avait mis de soi. Et puis à l'occasion d'une autre, une difficulté survenue, elles sont sorties de leur peau depuis vulnérables. Et alors, on se rend compte que Dieu veut nous équiper de douceur dans la vie. Pas simplement quand tout sera bien pour nous, après tout, quand tout sera bien, c'est pas bien. C'est pour ça que le sermon sur la montagne nous invite à aider nos ennemis et non pas à nos amis. C'est trop facile d'aider nos ennemis. Ça demande douceur, sagesse et patience. Moïse est un exemple intéressant dans énormément de situations. Je dis énormément parce que vous savez que Moïse, à un moment donné de sa vie, au lieu de se parler au rocher, il l'a frappé. Et à cause de cela, du fait qu'il n'a pas rendu gloire à Dieu, que Dieu a dit qu'il a parlé au rocher, lui a frappé le rocher. Et par trois fois dans l'Écriture, une fois dans Deutéronome et une fois dans les Psaumes, Moïse, Dieu laisse à Moïse ou aux auteurs qu'il a inspirés, pour les Psaumes, à ces trois personnages, ou à ces deux personnages, selon, il leur laisse cette intelligence de dire, de faire dire à Moïse, à Israël, c'est à cause de vous, si je ne peux pas rentrer dans la terre promise, c'est à cause de vous. C'est-à-dire que vous m'avez poussé par votre comportement, par vos murmures, par vos réflexions et vos désobéissances, vous m'avez poussé à la terre. Il n'est pas en train de dire « je n'ai aucune responsabilité dans mon comportement ». Simplement, il parle de la solidarité au sein même du peuple hébreu à l'époque. Et par murmure, par désobéissance, par un désir de résister à la parole de Dieu, ils ont poussé cet homme, Moïse, à commettre une faute, à commettre un péché. Et il leur dit « c'est à cause de Dieu ». Alors vous voyez, on est responsable de ce que l'on fait, de la façon dont on réagit, mais il y a dans certaines situations des responsabilités partagées. La Bible elle-même nous enseigne. Et Moïse, tout en maintenant sa force de chef d'Israël, n'en accepte pas moins l'injure personnelle sans rancune ni récrimination. En Nombre, chapitre 12, verset 1 à 3, il y a sa sœur aînée, Marie, et Aaron, frère aîné, donc Aaron a 3 ans de plus que lui. Moïse est plus jeune, Et souvent, c'est les plus jeunes, sont les plus spirituels dans la famille. Ça se passe chez vous. C'est intéressant dans la Bible, souvent, les plus jeunes, vous avez David aussi, les plus jeunes, c'est des gens spirituels. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Alors, vous comprenez que cette réflexion est là, quelque part un fondement. Marie, c'est une prophétesse. Cantique de Marie, la sœur de David dans l'Ancien Testament. Et puis Aaron, c'est celui que Dieu avait désigné pour qu'il puisse s'exprimer à la place de Moïse, qui lui avait la bouche embarrassée pendant un certain temps. Donc ils avaient déjà communiqué quelque chose de la part de Dieu ici de là. Et Marie va encore après ces événements. Mais voilà qu'ils veulent prendre une position qui n'est pas, que Dieu ne leur accorde pas. Alors ils disent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Donc c'est une contestation, en quelque temps, ouverte de l'autorité de Moïse et de sa position de serviteur de Dieu, désignée par le Seigneur. Et or Moïse était un homme fort patient, dit le Dieu saint, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc il a supporté, en quelque sorte, la remise en question. C'est quelque chose d'assez difficile dans les familles, la remise en question. Et Moïse l'a supporté. La douceur est également dans les saintes écritures une qualité du roi messianique, c'est-à-dire du Messie d'Israël, attendu et de son peuple qui héritera la terre, donc les chrétiens. Le prophète Zacharie, dans le chapitre 9 de son livre, au verset 9, lance cette prophétie. Sois transportée la maîtresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, car voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, nous voyons du verset, il est humble. Dans le Nouveau Testament, loin d'être une manifestation de faiblesse, la douceur est le fruit d'une force intérieure, liée à la maîtrise de soi et inspirée par l'humilité. En Galates, chapitre 5, verset 23, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise. Extraordinaire ce que le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, développe dans nos vies, ces fruits de l'Esprit avec toutes ses conséquences. Et c'est pour cela que dans le livre l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 1 et 2, l'apôtre Paul va dire, je vous exhorte non pas le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, en conservant l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est ce passage. Et puis, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, en Colossiens, chapitre 3, verset 12, va dire ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, extrêmement enrichissant et encourageant pour chacun d'entre nous. Et à un moment donné de sa vie, le Seigneur qui est venu pour servir par obéissance et pour nous sauver, vient étant d'accord pour offrir sa vie en sacrifice, alors il laisse toutes ces accusations qui viennent, toutes ces souillures, tous ces mensonges, tous ces complots viennent se glisser sur lui et il va offrir sa vie. C'est un abandon total entre les mains de son Père, dans la volonté de son Père. Et Dieu, en tant que chrétien, le Seigneur va nous apprendre ça. C'est extraordinaire comment le Seigneur nous apprend à lâcher beaucoup de choses, à maîtriser énormément d'émotions, à faire face à énormément de contrariétés, d'injustices même. De notre Créateur et Sauveur, alors Un tel homme conscient devant Dieu de son indignité ne s'indignera pas dans l'adversité, mais acceptera les épreuves comme inscrites dans les desseins de Dieu à son égard, les desseins d'un Dieu sage et bienveillant, en vue de son plus grand bien. Regardez, quand on pense à Joseph, fils de Jacob, c'est dans le livre des Psaumes qu'on découvre une vérité, et aussi à la fin du livre de la Genèse. Quand ses frères disent, ne voyez-vous pas dans quel endroit la cité, quand ils l'ont jeté dans la cité. Et ensuite, Joseph accepte avec une, semble-t-il, si vous pouvez avoir une facilité, d'obéir à Dieu, d'être injustement condamné, accusé par la femme de Potiphar, jeté en prison. Enfin, une succession de situations compliquées et injustes. Et on voit ce passage de Joseph qui est accusé par ses frères, vendu par ses frères, acheté au fond d'une fosse, une citerne avant d'être récupéré par les Amalécites, si je me trompe. Eh bien, on voit Joseph qui connaît l'angoisse. Et ensuite, on retrouve Joseph chez Potiphar, en pleine possession de ses moyens. Il a placé toute sa confiance en Dieu, son créateur, dans le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Voilà comment la douceur fait son œuvre dans sa vie. Il a connu des émotions, il a ressenti l'injustice, à tel point que quand ses frères ont se présenté devant lui, alors qu'il est le maître de l'Égypte, après Pharaon, et bien il a pleuré. Donc on sent bien que c'est un homme qui vit, qui a des émotions. Pas oublier, mais quand il se retrouve chez Potiphar comme serviteur, il est libre parce qu'il accepte le dessein de Dieu sur sa vie, fait confiance en lui. Et il était jeune, parce qu'il a été vendu à 17 ans. Il était jeune, donc n'attendez pas de faire plus seul. N'attendons pas cette sagesse que Dieu veut nous accorder, cette douceur qu'il veut nous communiquer. Les apôtres recommandent la douceur à leurs lecteurs. Paul évoque la douceur de Christ dans son appel aux Corinthiens qui sont déloyaux envers lui. Paul est venu prêcher l'évangile à Corinthe. La plupart des gens qui sont à Corinthe, à l'origine, ont été convertis par la prédication de l'apôtre Paul. Et voilà que ces mêmes chrétiens, certains de ces chrétiens de Corinthe, se retournent contre lui pour l'accuser à un autre considérable le niveau de sa personne, remise en cause de son ministère, remise en cause de sa personnalité, dénigrement sur sa façon de parler quand il est à l'extérieur et de parler quand il est en présence. Une série d'accusations insultantes et mensongères, de calomnies et de dissences. Et voilà ce que l'apôtre doit dire en 2 Corinthiens chapitre 10, verset 1, moi Paul. Je vous prie par la douceur et la bonté du Christ. Et puis là, il va les exhorter, voire les reprendre. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté du Christ. Et il rappelle qu'elle fait partie, donc cette douceur et cette bonté, du fruit de l'Esprit. J'ai lu dans Galates chapitre 5, verset 23. Et qu'elle convient aux élus de Dieu, selon Colossiens chapitre 3, verset 12, que nous avons lu tout à l'heure. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Les apôtres, avec Paul, exhortent l'homme de Dieu à faire preuve d'un esprit de douceur. Galates chapitre 6, verset 1, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Ensuite, il s'adresse, il donne un enseignement au travers des livres de Tite, du chrétien, de la manière dont il doit se comporter vis-à-vis de tous les hommes. En Tite, chapitre 3, verset 1 et 2, il dit « Rappelle-leur !» Paul dit à Tite « Rappelle-leur à ces chrétiens d'être soumis !» Chrétien crétois, hein, « D'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être relation avec ses frères chrétiens, eh bien, et l'enseignant, parce que là il s'adresse à Tite, vous savez que les deux épîtres de Tite, de Timothée, pardon, sont ce qu'on appelle les épîtres pastorales, c'est-à-dire comment un serviteur de Dieu doit se comporter dans le peuple de Dieu. Et il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. C'est aussi valable pour quand on donne un témoignage, de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit le donner en toute douceur et en instruisant. Et en expliquant le pourquoi de notre foi. Et tout cela dans le propre intérêt du chrétien. Puisque Paul va dire à Timothée, au chapitre 6, verset 11 de la première épître, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, c'est-à-dire toutes ces passions de la jeunesse, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur avec ceux qui invoquent le Seigneur de la vie. » Quelque chose de mortellement. Jacques exhorte ses bien-aimés, ses frères bien-aimés, à recevoir avec douceur la parole plantée en eux. Dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, verset 21, l'apôtre dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice. Et vous avez des gens pour leur présenter l'Écriture sainte et ils vont vous la tordre, ils vont vous trouver des plaisanteries sur l'Écriture sainte, ils vont essayer de s'en sortir avec la malice. Mais ça pourrait être aussi le même chrétien, des fois, dans ses propres raisonnements, qui arrive à tordre le sens des choses pour ne pas voir sa réalité en face. Alors il dit, rejetant tout excès de malice, recevez avec la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur, comme du miel, se laisser reprendre par l'Écriture sainte, instruire par l'Écriture sainte, sonder par l'Écriture sainte, afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans vos vies. C'est quelque chose de très important. Et ensuite, en Jacques chapitre 3, verset 13, l'apôtre explique comment un chrétien doit se conduire avec douceur. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Vous savez, à l'époque, dans l'église de l'apôtre Jacques, il y avait des gens extrêmement riches et des gens très pauvres. Et vous connaissez l'épître de Jacques. Quand les riches arrivaient, alors les responsables de la communauté les avaient venir de vendre les meilleures places. Souvent, les chrétiens qui étaient pauvres étaient esclaves de ces gens-là. Quand on connaît le contexte de l'Épître et l'époque. Et Jacques va leur dire, mais Dieu ne fait pas de différence. Vous n'avez pas à faire venir un riche devant et laisser que les pauvres derrière. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il leur dit dans ce contexte, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Parce qu'il y en avait qui prétendaient être quelque chose, on est ça, on est intelligent. Vous vivez, nous, c'est l'esclave. Dans l'église de Dieu, c'est comme ça. Et alors, Jacques est extrêmement carré et clair. Il leur dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite. La sagesse et l'intelligence ne démontrent pas les œuvres, pas aux œuvres, je veux dire, à l'avance, à la question. Donc, par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Et nous voulons être intelligents et spirituels, et bien voilà, conduisons-nous avec douceur et sagesse. Dernière référence avant de vous citer un chrétien des premiers siècles qui a été décapité en 248 de l'après Jésus-Christ. Référence d'abord de l'apôtre Pierre. Pierre recommande de répondre avec douceur à ceux qui demandent une raison de l'espérance chrétienne. En 1 Pierre chapitre 3, verset 15, il est dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, Ceux qui le composent ont trouvé le joie qui est mille fois meilleur que quelque plaisir que ce soit de nos vies de péché. Ils sont méprisés et persécutés, mais ne s'en soucient pas. Ils sont maîtres de leur âme. Ils ont vaincu le monde. Ces gens, de Natus, sont les chrétiens. Et je suis l'un d'eux. Signé Cyprien, qui ensuite est devenu évêque de Tarbes. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous dans notre relation avec le Seigneur et que notre Maître et Seigneur puisse communiquer dans